Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 19h30, temps universel, le monde aujourd'hui, édition du lundi 15 mai 2017, en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, mutinerie en Côte d'Ivoire, un accord trouvé, c'est ce qu'annonce le ministre de la Défense. 5 employés de la Croix-Rouge ont été enlevés au Mali, vers un possible vote de défiance à bulletin secret contre le président Jacob Zuma en Afrique du Sud. La France a un nouveau Premier ministre et retrouvez Nicolas Pinault à la fin de ce journal pour les sports et Nathalie Barge pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Mutinerie en Côte d'Ivoire, un accord entre le gouvernement et les mutins a été trouvé. Les détails tout de suite avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté. Vous êtes avec nous ?
Oui.
Alors, parlez-nous de cet accord.
Ok. En début de soirée, le ministre en charge de la Défense, Alain-Richard Denwayi, s'est prononcé sur les antennes de la chaîne de télévision nationale. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et les mutins. Cette annonce a été faite sur lundi en début de soirée par le ministre de la Défense, Alain-Richard Denwayi, qui s'est exprimé sur les antennes de la radiodiffusion ivoirienne. Selon lui, en vue d'éviter tout enlisement et plus d'endeuillement de famille, l'état-major général des armées a entrepris des échanges avec les soldats mutins hier et ce lundi. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise. Il n'est pas allé dans les détails de ces modalités, n'a pas donné les détails de cet accord. Quelques minutes après, des tirs se font entendre dans Abidjan et à Boaké. Nous ne savons pas actuellement si c'est des tirs de joie ou des tirs de mécontentement, mais des tirs sporadiques se font entendre un peu partout dans les quartiers à Abidjan.
Et est-ce que les mutins sont retournés dans les casernes?
Non, les mutins ne sont pas retournés dans les casernes, c'est ce que je venais de vous dire. Quelques minutes après la déclaration du ministre de la Défense sur les antennes de la télévision nationale, des tirs se font entendre un peu partout dans différentes casernes à Abidjan et à Boaké. Et pour l'heure, nous ne sommes pas en mesure de vous dire exactement si c'est des types de mécontentement ou des types de joie.
Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. C'était donc Narita Namasté, notre correspondante à Abidjan. Nouveau rapt au Mali, 5 employés maliens du comité international de la Croix-Rouge ont été enlevés hier soir dans la région de Mopti par des djihadistes présumés. Et déjà l'année dernière, des employés de la Croix-Rouge avaient été kidnappés puis relâchés quelques jours plus tard. On fait le point sur place avec Mamoudou Bokoum, notre correspondant à Mopti.
5 travailleurs du CICR ont été enlevés hier vers 22h à Togere-Koumbé, une localité située à 75 km de Ténénko. Parmi les 5 personnes enlevées, il y avait une femme. Cette dernière a été libérée et les autres ainsi que leurs véhicules sont entre les mains des ravisseurs. Ces humanitaires étaient en mission dans cette zone, une zone poreuse depuis le départ de l'administration due à l'insécurité qui y règne. Actuellement, dans le delta intérieur du Niger, en plus des attaques, les groupes armés procèdent à l'enlèvement des agents de l'administration. Le dernier en date est celui de l'agent de l'UNPS, Mamoudou Bokouma Mopti, pour VOA Afrique.
Et signalons que le nouveau chef de l'État français, Emmanuel Macron, se rendra jeudi ou vendredi au Mali pour rendre visite aux troupes françaises de l'opération Barkhane. Week-end de violence au Nigeria. 20 agriculteurs qui priaient dans une mosquée ont été tués samedi par des éleveurs peuls dans le centre du pays. Et d'après la police, les hommes armés ont ouvert le feu sur les fidèles dans le village d'Etogi. L'attaque a été menée en représailles au meurtre d'un éleveur quelques jours plus tôt lors d'affrontements entre éleveurs et nomades et agriculteurs autochtones sur le pâturage. Et près de Maïdougouri, berceau de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, des djihadistes présumés ont tué 6 villageois qui travaillaient dans leurs champs samedi. Des hommes sont arrivés en moto dans le village d'Amrawa. Ils ont attaqué avec des machettes, ont volé des semences et ont égorgé 6 paysans. Niger, Insar Abdourahmane, militant de la société civile, a été arrêté dimanche à Agadez, dans le nord du pays. Il est accusé d'incitation à la violence en lien avec l'interdiction d'une manifestation à Niamey. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui son ONG dans un communiqué. Violence en Centrafrique, la France a condamné les récentes attaques meurtrières contre des casques bleus. Toute la lumière devra être faite sur ces actes odieux qui peuvent constituer des crimes de guerre et dont les auteurs doivent être traduits en justice, affirme le Quai d'Orsay. En moins d'une semaine, 6 soldats de maintien de la paix ont été tués à Bangassou, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Et concernant la RCA toujours, selon Human Rights Watch, au moins 16 femmes et filles ont été abusées sexuellement par des militaires ougandais déployés dans l'est du pays entre 2009 et avril 2017. Un sujet sur lequel nous reviendrons en partie magazine de notre émission. Résurgence de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le gouvernement nigérian a mis en place des mesures de surveillance à ses frontières. Des équipes sanitaires ont été déployées sur le terrain. Ils vérifient que les personnes qui arrivent au Nigeria ne présentent aucun symptôme de la fièvre hémorragique, expliquent les autorités. 390 miliciens et 124 membres des forces de l'ordre ont été tués depuis fin mars dans le Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo, secouée par des violences impliquant miliciens, policiers et soldats. C'est ce qu'a rapporté l'armée congolaise. Au Soudan du Sud, selon les Nations Unies, 1,4 milliard de dollars sera nécessaire cette année pour aider 1,8 million de réfugiés. Le Haut Commissariat aux réfugiés et le Programme alimentaire mondial demandent donc une rallonge de 200 millions de dollars par rapport au plan initial. L'Union européenne veut donner un nouvel élan à son partenariat stratégique avec l'Afrique. L'Europe entend dépasser son rôle de principal bailleur de fonds pour coopérer davantage sur la sécurité, le climat, l'économie ou l'immigration. C'est ce qu'a indiqué sa haute représentante Frédérica Mogherini. En Afrique du Sud, au terme de près de 8 heures d'audience, le président de la Cour constitutionnelle, Mengwang Mengwene, a renvoyé son jugement à une date qu'il n'a pas précisée. La plus haute juridiction sud-africaine débattait d'une requête de l'opposition sollicitant un vote de défiance à bulletin secret contre Jacob Zuma au Parlement. Nouvel épisode de la bataille politique engagée autour de l'avenir du président Jacques Aristide.
Nouvelle démonstration de force à Johannesburg devant la Cour constitutionnelle. Nous marcherons jusqu'à ce qu'ils partent, scandaient les opposants de l'Alliance démocratique et les combattants pour la liberté économique. Ces partis ont réuni leurs troupes pour soutenir leur action après avoir déposé cette motion de défiance contre le président Zuma à la suite du remaniement du gouvernement en mars dernier, marqué par le limogeage très controversé du ministre des Finances Pravin Gordhan. Monsieur Zuma, montré du doigt dans plusieurs scandales de corruption, avait déjà balayé d'un revers de main les protestations qu'il a qualifiées de racistes. Ses adversaires ont demandé le secret du vote au Parlement, persuadés de pouvoir retourner une partie des députés du Congrès national africain, surtout que la Grand-Une a également gagné les rangs de l'ANC, qui doit choisir en décembre prochain le successeur de M. Zuma en vue des élections générales de 2019.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France a un nouveau Premier ministre. Édouard Philippe a été désigné par le président Emmanuel Macron pour former le premier gouvernement de son quinquennat. Portrait du nouveau locataire de Matignon avec Éric Manirakiza.
Édouard Philippe a 46 ans. Il est l'élu de droite modérée, mais peu connu du grand public. Député et maire de la ville du Havre au nord-ouest de la France, Édouard Philippe est proche de l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Dans sa jeunesse, il a milité pour le socialiste Michel Rocard avant de rejoindre l'UMP, devenu Les Républicains. Ce choix d'Emmanuel Macron reflète la volonté affichée de vouloir rompre avec les habitudes de la Ve République. Jamais un président social-démocrate n'avait nommé un premier ministre de droite. Monsieur Macron vise à attirer une partie de la droite pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale aux législatives du mois prochain. Un autre test de la recomposition politique promise par monsieur Macron est attendu demain, c'est la formation du nouveau gouvernement. Mais déjà, Brice Hortefeux, proche de Nicolas Sarkozy, a lancé une flèche disant qu'un débauchage ne fait pas un équipage.
Lutte contre le groupe État islamique en Syrie. Des raids menés par la coalition internationale conduite par Washington ont tué au moins 23 civils à Boukamal, près de la frontière irakienne. Et c'est dans ce contexte que l'ONU ouvre de nouveaux cycles de négociations demain à Genève, en Suisse. Des pourparlers de paix parallèles se tiennent pourtant depuis janvier à Astana, au Kazakhstan, avec la participation de la Russie, l'Iran et la Turquie, alliés du régime de Bachar al-Assad. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump continue de chercher un nouveau directeur du FBI après le limogeage la semaine dernière de James Comey. Plusieurs noms circulaient dans la presse pour prendre la tête de la police fédérale. Pas moins de 14 personnes sont en lice selon Politico. L'opposition démocrate menace de faire obstruction afin d'obtenir la nomination d'un procureur spécial pour mener des enquêtes sur les ingérences présumées de la Russie dans les dernières élections américaines. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
L'Afrique n'est pas épargnée par la propagation du logiciel de rançon WannaCry. Selon les données de MalwareTech, un blog spécialisé dans ce type d'attaque, les pays concernés par l'attaque seraient le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Kenya, la Namibie, le Zimbabwe et Madagascar. Smart Africa et Cyberlibris ont signé un nouveau partenariat qui permettra aux universités et bibliothèques africaines un accès libre et plus rapide au savoir. Cela permettra de collecter des données sur la lecture électronique afin que la plateforme puisse répondre plus efficacement aux recherches. Nous essayons de combler l'écart en termes de contenu numérique entre les établissements universitaires du Nord et du Sud, a déclaré François Lascaux, président du conseil d'administration de Cyberlibris. La ministre sud-africaine de l'énergie, Mamoloko Kubayi, a annoncé la signature de nouveaux accords prochainement pour la relance du programme nucléaire civil. L'Afrique du Sud a signé ces dernières années des accords avec la France, la Chine, la Russie, les États-Unis et la Corée du Sud en vue de l'attribution finale du contrat nucléaire. Mais fin avril, la justice a suspendu trois de ces accords, donnant raison à des ONG qui dénonçaient l'opacité du processus. De nouveaux accords avec ces pays vont être signés, a dit Madame Kubayi, indiquant que la procédure sera soumise à l'examen du Parlement.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
On commence par la CAN des moins de 17 ans au Gabon.
Suite de cette première journée ce lundi, le tenant du titre, le Mali, sera face à la Tanzanie et en second match de la journée, Angola-Niger. Hier, c'était un véritable festival offensif. Deux matchs, 10 buts. D'abord, le pays organisateur, le Gabon, qui a été surclassé d'entrée par le Sili National de Guinée, 5-1. Dans le second match, les Black Stars, les jeunes Ghanéens qui n'ont pas fait de détails devant le Cameroun. Le score 4-0, Guinéens et Ghanéens qui se partagent la première place de ce groupe A.
Le Burkina Faso, grand vainqueur du Tour du Bénin 2017.
Il a fallu attendre la dernière étape, un critérium de 80 km à travers les rues de Cotonou pour connaître le vainqueur de cette édition 2017. Abdulaziz Nikema succède ainsi à un autre Burkinabé, Mathias Sorgho. A noter que la cinquième étape de ce Tour du Bénin a été remportée par l'Ivoirien Abou Sanogo en 1h49 minutes et 52 secondes.
Football, transfert en Allemagne.
Le milieu de terrain guinéen Ibrahima Traoré a prolongé son contrat avec Mönchengladbach jusqu'en 2021. C'est ce qu'annonce le club. L'international de 29 ans était sous contrat jusqu'à fin 2018. En trois saisons avec le club, il a joué 87 matchs et marqué 13 buts.
Match en retard en Angleterre.
Manchester City qui tentera de garder son avance sur Arsenal dans la course à la Ligue des Champions, alors que les deux équipes s'affrontent à distance demain soir lors des derniers matchs en retard du championnat d'Angleterre. En cas de victoire des deux équipes, demain, tout se jouera dimanche lors de la dernière journée et Liverpool, troisième, entrera alors dans la danse. Une défaite éliminerait Arsenal, sauf si Manchester City s'incline aussi.
Et enfin, basket NBA.
Golden State a souffert dans le premier match de la finale de la Conférence Ouest. Relégué à 25 points et longtemps méconnaissable, les Warriors sont venus à bout, 113-111 des Spurs de San Antonio, affaiblis par la sortie sur blessure de Kawhi Leonard.
Merci Nicolas.
le monde.
Morgane Guiriec en votre compagnie, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. L'ONG Human Rights Watch dénonce dans son rapport publié ce lundi les abus sexuels commis par des militaires ougandais déployés en République centrafricaine. L'enquête a relevé qu'au moins 16 femmes et jeunes filles de la ville d'Obo ont été violées ou exploitées par ces soldats. Pour comprendre l'affaire, Dili Diko a joint à Nairobi Louis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch.
Nous avons documenté 16 filles et femmes qui étaient soit violées ou soit exploitées par les soldats ougandais. Parmi les 16, 15 qui étaient enfantées. La plupart des filles et femmes sont des filles et femmes qui étaient déplacées par la violence, soit la violence par la LRA, le Lord's Resistance Army, soit par rapport à la violence dans la RCA en général.
Ce n'est pas la première fois qu'il y a des accusations comme ça. Qu'est-ce qui a été fait par rapport aux cas précédents, par exemple avec l'opération Sangaris, il y avait aussi eu des accusations. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des poursuites en fait?
Pour les Sangaris et pour les forces onusienne, il y a une suite. Ce n'est pas idéal, mais au moins il y a une suite. Par exemple, en France, il y a une suite judiciaire. Jusqu'à maintenant, nous, à Human Rights Watch, on ne croit pas que le juge d'instruction et les enquêteurs français, ils ont fait leur travail en RCA comme on veut. Mais au moins, il y a quelque chose. Même chose pour les forces onusiennes. Lorsqu'il y a une accusation contre un soldat onusienne, directement, le soldat en question, il est réenvoyé chez lui. Mais franchement, la réponse de l'Union africaine par rapport à cette genre d'accusation, c'est presque rien. Il n'y a pas de suite de Addis Ababa, le siège de l'Union africaine, et il n'y a pas de suite de Kampala et du Ouganda.
Maintenant, ce qui va se passer pour ces soldats ougandais, c'est qu'aucune poursuite ne va être engagée. Ils vont donc pouvoir partir en toute impunité?
Pour le moment, oui. Malheureusement, ils sont en train de partir en toute impunité. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de lancer ce rapport aujourd'hui même, avant le fermeture officielle de cette force, parce qu'ils sont en train de fermer, comme j'ai dit tout à l'heure. Et nous avons demandé les autorités ougandaises et les autorités de l'Union africaine de lancer une enquête.
Pensez-vous qu'on puisse réellement espérer un aboutissement de cette enquête?
Vu le comportement des autorités ougandaises, pour le moment, non. Mais si l'Union africaine demande Ouganda et faire une petite pression sur l'Ouganda, peut-être ça peut y aller. On espère.
Voilà, c'était Louis Mudge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch, joint à Nairobi par Dili Diko.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé ont annoncé vendredi une épidémie d'Ebola dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Selon le ministre de la Santé, le bilan est actuellement de 5 morts. C'est la 8e fois que la RDC est touchée par cette épidémie. Solange Nyamulisa a joint le docteur Miatudila Malonga et qui a découvert le virus Ebola pour la première fois en République démocratique du Congo en 1976.
Ebola, c'est une maladie qui nous frappe sans prévenir. Le virus vit en Afrique centrale, dans la forêt. Et une grande partie de la forêt équatoriale se trouve en République démocratique du Congo. Donc la République démocratique du Congo est exposée au virus d'Ebola plus que d'autres pays. Donc le virus vit là-bas, dans la forêt. Et la population congolaise, de temps en temps, rentre dans l'écosystème du virus d'Ebola.
Quel est le nombre de morts enregistrés jusqu'à aujourd'hui?
D'après le ministre, d'après ce qu'il a dit hier, il y a eu 5 morts sur les 9 cas qu'on a identifiés.
Quelles sont les mesures prises pour éradiquer cette maladie?
C'est la 8e fois que la RDC est attaquée par Ebola. Les 7 fois antérieures, la RDC a été capable de maîtriser l'épidémie en moins de 3 semaines. Et nous espérons que c'est les mesures qui ont donné de bons résultats dans les épidémies passées vont être prises cette fois-ci également. Il s'agit d'abord, pour lutter contre Ebola, de donner la priorité à l'action de la communauté. Donc c'est la communauté qui doit se prendre en charge et les services de santé sont là pour soutenir le travail de la communauté. Et ce n'est pas le contraire comme on l'a fait en Afrique de l'Ouest. C'est la résilience des communautés congolaises appuyées par les zones de santé qui sont des entités, des petites entités décentralisées à travers toute la République. Ce sont ces entités-là qui soutiennent les communautés locales. Le niveau central, même le niveau provincial, viennent simplement en appui de l'action locale. C'est ça le secret de la lutte contre Ebola. Donc la recette que nous utilisons depuis 1914, c'est d'informer la communauté. Donc doter les communautés de la capacité de faire face à Ebola. Et c'est quoi? C'est simplement des mesures de protection. Il ne faut pas être en contact avec quelqu'un que vous soupçonnez être infecté. Mettre fin aux cérémonies traditionnelles que l'on connaît lors des funérailles. Faire attention à la consommation des viandes du gibier. Si la communauté prend ces mesures-là, on arrive facilement à mettre fin à l'épidémie. Il n'y a pas de médicaments jusqu'à présent pour traiter les cas d'Ebola. Et cette recette-là a donné de bons fruits jusqu'ici.
Docteur Miatoudi Lamalonga, qui a découvert le virus Ebola pour la première fois en République démocratique du Congo en 1976.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
De l'inédit au Bénin, un citoyen administrateur des sociétés saisit la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation de l'élection de Patrice Talon. Le président arguant de, je cite, l'achat de conscience des députés le 4 avril dernier lors du vote sur la recevabilité du projet de révision de la constitution béninoise. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Floradandé.
L'histoire politique du Bénin retiendra désormais ce nom, Adotevi Andro, cet administrateur des sociétés qui se dit exaspéré par la corruption galopante au Bénin, qui a saisi l'opportunité des révélations de Rosine Viera Soglo sur l'achat de conscience des députés pour saisir la Cour constitutionnelle. Un recours en invalidité de l'élection de Patrice Talon, c'est l'intitulé de la requête. Pour les spécialistes des questions de droit, c'est un projet qui ne peut aboutir. Valentin Aronsou est juriste et observateur de la vie publique.
En invalidité du président de la République ne peut intervenir que lorsqu'on constate qu'il y a eu inscription de faux dans le dossier de candidature du chef de l'État. Encore qu'il faut établir clairement que le président de la République a de manière claire et nette procédé à l'achat de conscience des députés.
Pour le requérant, l'achat de conscience qui aurait motivé le vote de certains députés au cours des débats sur la révision ou non de la Constitution serait la goutte d'eau de trop. Les députés s'insurgent d'ailleurs contre ce qu'ils appellent diffamation sur le Parlement. Gérard Benucci est député à l'Assemblée nationale. Il est membre de la Commission des finances.
Personne n'a jamais tenté d'acheter ma conscience dans son vote. Je ne vois pas, ce serait très malsain prendre l'argent avant d'exprimer mon vote. Alors là, ça, là, je n'existe plus. Et je ne vois pas quel député pourrait accepter cela. Moi, je vote librement les lois. J'examine librement les textes de loi. Et je vote selon l'intérêt supérieur de la nation et selon ce que ma conscience me dit.
Et pourtant, l'Assemblée nationale a été toujours éclaboussée par ce genre de scandale où les voix les plus autorisées au sein de la société civile ont maintes fois dénoncé la facilité avec laquelle le Parlement, au lieu de contrôler l'action gouvernementale, préfère ne rien faire.
Ils oublient que, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, ils vendent leur âme, ils vendent leur conscience, ils vendent leur pays.
Pour certains Béninois, les députés, en tant que représentants du peuple, se doivent d'être irréprochables.
La question de la corruption et qui persiste et qui nous ruine aujourd'hui, simplement parce que nous n'avons jamais décidé d'aller à la phase la plus essentielle qu'est la punition. Donc c'est comme si collectivement nous acceptons un peu de cultiver cette impunité qui se fait favorable. Alors, à ce foisonnement de situation, cette mandature a un défi.
Y a-t-il eu, oui ou non, achat de conscience des députés le 4 avril dernier? C'est en apportant les preuves que le requérant pourra donner du poids à la demande déposée devant la Cour constitutionnelle, même si en l'état, la Cour constitutionnelle ne peut invalider une élection qu'elle a elle-même validée. Dans le rang des populations, on pense que dans un pays qui se respecte, la justice devrait s'autosaisir de cette affaire pour que si achat de conscience, il y avait eu, que les coupables subissent les rigueurs de la loi. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU sur VOA Afrique.
On parle de quelques 200 000 victimes, essentiellement des entreprises, dans au moins 150 pays. Une cyberattaque mondiale est en cours depuis vendredi. Des millions d'ordinateurs subissent ce piratage qu'on appelle ransomware. Des machines informatiques sont prises en otage par un virus malveillant, puis des individus demandent une rançon. Pour en savoir plus, Bagassi Koura a joint ici à Washington Drissa Dao. Il est expert en cybersécurité au compte du gouvernement américain.
Il s'agit essentiellement d'un logiciel malveillant qu'on appelle en français rançongiciel. Autrement dit, c'est un logiciel qui verrouille vos données et les auteurs vous réclament de l'argent en contrepartie pour pouvoir libérer vos données. Donc, c'est une rançon qu'on vous demande.
Et est-ce qu'on sait l'origine?
Jusque-là, on ne sait pas très bien de qui c'est parti. L'une des difficultés qu'on a avec ce genre d'attaque, c'est justement... Il est très difficile de retrouver les auteurs et très vite parce qu'ils utilisent un réseau d'ordinateurs connectés qui peut être des milliers d'ordinateurs et c'est très très difficile de savoir d'où l'attaque vient.
Alors on parle de plus de 200 pays, hein. Est-ce qu'il faut beaucoup de monde pour lancer une telle attaque?
Non, pas forcément. Vous savez, il y a une technique qu'on appelle la technique du botnet. Le botnet, c'est quoi? C'est un ensemble d'ordinateurs que les hackers ou les attaquants prennent le contrôle et les relient entre eux. Et il suffit donc de demander à tous ces ordinateurs-là de lancer une attaque. Pour ce qui concerne cette attaque précise, ce que nous avons appris, c'est qu'il s'agit d'un logiciel malveillant qui a deux composantes. Une composante qui permet à la machine infectée ou l'équipement infecté sur un réseau de propager, c'est-à-dire de contaminer d'autres ordinateurs sur le même réseau, et une composante de rançon qui permet donc de chiffrer ou de verrouiller vos fichiers et à partir de là, on vous réclame la rançon.
Alors, il semble que l'Afrique n'a pas été très touchée. Hein. Comment on peut expliquer cela?
L'Afrique n'est pas touchée, c'est vrai. Il peut y avoir plusieurs explications. Vous savez que l'Afrique, d'abord, n'est pas aussi connectée au réseau Internet comme le reste du monde. Donc, ça, c'est dû au gap numérique qui existe entre l'Afrique et le reste du monde. La seconde explication, de mon point de vue, peut être due au fait que l'Afrique n'est pas connectée aux moyens de paiement comme le reste du monde. Vous savez que cette attaque consiste essentiellement à réclamer une rançon du moins. Et voilà, pour la payer, il faut passer par une monnaie virtuelle. Et cette monnaie virtuelle qu'on appelle le Bitcoin, elle n'est pas accessible, de mon point de vue, à tout le monde en Afrique. Et les auteurs de cette attaque, naturellement, savent que réclamer de l'argent à des entreprises ou à des structures publiques africaines, ce serait peine perdue.
Voilà, c'était donc Drissa Dao, expert en cybersécurité, ici à Washington. La fin de cette édition à la mise en onde. On avait donc Lionel Gaïma, Morgane Diriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.